Voilà, et nous allons continuer notre série d'études dans les Romains, dans l'épître de Paul aux Romains. Donc, si vous voulez ouvrir vos Bibles, Romains chapitre 1, et nous allons lire les versets 8 à 17. Romains chapitre 1, les versets 8 à 17. Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. Dieu, que je sers à mon esprit dans l'évangile de son Fils, m'est témoin que je fais sans cesse mention de vous, demandant continuellement dans mes prières d'avoir enfin, par sa volonté, le bonheur d'aller vers vous. Car je désire vous voir pour vous communiquer quelques dons spirituels afin que vous soyez affermis, ou plutôt afin que nous soyons encouragés ensemble au milieu de vous par la foi qui nous est commune à vous et à moi. Je ne veux pas vous laisser ignorant, frères, que j'ai voulu former le projet, d'aller vous voir afin de recueillir quelques fruits parmi vous, comme parmi les autres nations. Mais j'en ai été empêché jusqu'ici. Je me dois aux Grecs et aux barbares, aux savants et aux ignorants. Ainsi, j'ai un vif désir de vous annoncer aussi l'Évangile à vous qui êtes à Rome. Car je n'ai point honte de l'Évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Vous connaissez peut-être John Wesley, qui est en fait le fondateur des églises méthodistes, et que Dieu a utilisé grandement pour un réveil en Angleterre. Mais il avait traversé l'océan Atlantique pour porter l'Évangile aux Indiens d'Amérique. Mais pendant qu'il était là, il s'est rendu compte qu'il n'avait pas l'assurance du salut lui-même. Et il est rentré en Angleterre assez découragé. Et c'est en écoutant le récit de la conversion de Martin Luther, qui, lui, était de passage à Rome, hein, c'était un moine allemand, et qui était de passage à Rome, il pouvait faire ses devoirs de moine, et c'est là qu'il a compris ce message, le juste vivra par la foi. Et là, Martin Luther a compris que le salut est par la foi et rien d'autre. Et John Wesley, en entendant cela, il a compris le message. Il a reçu le salut, l'assurance du salut, et c'est là c'était le début, c'était l'étincelle qui a déclenché le réveil en Angleterre. Et c'était un homme très zélé. Je vous encourage à lire sa biographie. Mais c'était ce message, le juste vivra par la foi. C'était ce message qui vient de l'Épître aux Romains. Et l'apôtre Paul dit dans ce verset 16, eh bien, il dit, « Car je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Il dit, « Je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. » Vous savez, si on essayait de se mettre dans le contexte de l'apôtre Paul qui a le projet de se rendre à Rome. Bon, là, il écrit de Corinthe. Il est à Corinthe et il ne peut pas aller directement à Rome. Aquila et Priscille y ont été. Mais lui, les églises vont lui charger d'une collecte qu'ils ont faite parce que les chrétiens de Jérusalem sont dans la souffrance à cause d'une famine. Et donc, il va d'abord aller à Jérusalem porter cette collecte pour aider, où c'est les chrétiens d'une région qui aident les chrétiens d'une autre région. Et puis ensuite, il avait l'intention de Jérusalem, d'aller jusqu'à Rome. Et donc, c'est pour ça qu'il écrit. Et nous sommes reconnaissants pour cette lettre qu'il écrit. Mais, vous savez, pour Paul, de se rendre à Rome, c'était pas... il n'allait pas être bienvenu. C'était pas ce que eux recherchaient. Hein. Alors, pour se mettre dans le contexte, apporter un message tel que l'Évangile, c'est-à-dire Jésus-Christ mort, enseveli, ressuscité, ça, c'était pas ce que cherchaient les Romains. Hein. C'était pas ce que eux voulaient. Les Romains refusaient Jésus parce que c'était un faible. Et puis en plus, c'est nous qui l'avons crucifié. On ne va pas un crucifié, ce n'est pas digne d'être un chef pour nous. Hein. Et puis les Grecs, eux, ils avaient un autre problème avec l'Évangile, c'est parce que cette histoire, et Paul s'en est rendu compte à Athènes, eh bien, dès qu'on parle de quelqu'un qui ressuscite des morts, il dit « Oh, on a autre chose, plus, des autres choses plus intéressantes à écouter. » Et puis s'il fallait parler aux Juifs, eh bien, eux ne voulaient pas entendre que Jésus-Christ était le Messie promis. Donc, peu importe la population à laquelle Paul voulait s'adresser, ce n'était pas sûr de passer. Hein. Il n'y allait pas parce qu'on voulait entendre son message. Le christianisme était mal perçu à Rome parce que ceux qui devenaient chrétiens, eh bien, cesser d'adorer l'empereur. Et ça, c'était pris comme une rébellion. Hein, donc, ça a créé, et beaucoup de chrétiens sont morts, le martyr, et ont fait la prison, justement parce qu'ils refusaient d'adorer l'empereur. Et peut-être qu'on a cette même impression de nos jours. Hein. Vous savez, le message de l'Évangile, c'est pas toujours... Hein, vous n'allez pas comme ça dans le marché, vous rencontrez quelqu'un, dites « Écoutez, laisse-moi te parler de Jésus-Christ. » Tu peux parler de n'importe quoi, mais pas ça. Hein. Vous pouvez... Même des idées très farfelues, il va vous écouter. Mais parler de Jésus-Christ, mort sur la croix pour nos péchés, et ressuscité, tout ça, il dit « Non, non, mais... » Ça, il y a une époque pour ça, mais maintenant, on n'est plus là. Pourtant, on a les mêmes problèmes. Hein. Vous savez, l'enfant de Dieu, eh bien, maintenant qu'il a quitté le monde pour suivre le Seigneur, eh bien, il ne danse plus au même tambour hein, que le monde. Il marche maintenant au rythme de la parole de Dieu. Et l'apôtre Paul, il dit, moi, mais cet évangile, je n'en ai pas honte. Je dis, je sais, il dit, oui, je sais comment les gens comprennent cela, et je sais comment ils réagissent, mais moi, je n'en ai pas honte. Parce qu'il dit, moi, eh bien, j'ai vu ce que cet évangile peut faire dans la vie d'une personne. Et en commençant par lui-même, hein, il dit, moi, je sais ce que j'étais. Et c'était pas beau. Hein, il dit, j'étais violent, et pour lui, la pire des choses qu'il a faites, son plus grand péché, c'est de persécuter l'Église. Hein, pour lui, il dit, moi, écoutez, rien que pour cela, je suis le plus grand des pécheurs. Donc c'était le Saint-Esprit. Il dit, donc, moi, je sais ce que c'est que la puissance de l'Évangile. Il dit, et je l'ai prêché. Et c'est vrai, hein, il suffit de lire les actes des apôtres, et pour voir toutes ces villes, et par où ils passaient. Et chaque fois qu'ils prêchaient, les gens étaient transformés. Au point que tellement de gens avaient abandonné l'adoration de Diane, par exemple, à Éphèse, que les faiseurs d'idoles, eh bien, ils ont réagi, hein, ils ont sorti leur syndicat, et puis ils ont commencé à manifester. Ils étaient peut-être un peu français, hein, je ne sais pas, mais ils ont commencé à manifester parce que leur profession était menacée, pour dire l'impact, hein. Et il dit, mais je n'ai point honte de l'évangile, c'est la puissance. Peut-être que si vous avez le second 1910, il dit une puissance, mais c'est la puissance de, de Dieu pour le salut de quiconque croit. La puissance. Il n'y a pas une autre. Il n'y a aucune autre puissance qui puisse sauver. Aucun. Ce mot-là, tout à l'heure, on s'arrêtera dessus. Mais Jésus lui-même, dans la chambre haute, dira aux disciples, il dit, comment dire plus simplement que dire « Je suis le chemin ». Nul ne vient au Père que par moi. Et allez dire ça à Rome, qui, depuis, tous les chemins mènent à Rome. Mais un seul chemin mène à Dieu. Les gens n'aiment pas entendre cela. Mais moi je dis, mais merci Seigneur qu'il y a un chemin qui mène à Dieu. Parce qu'il n'y en avait pas sans Jésus-Christ. Et donc c'est une grâce qu'il y a un chemin. Et combien de chemins avons-nous besoin? Et s'il y en a un, tant mieux. Et Paul écrira à Timothée et lui dit, écoute, dis-le. Il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, l'homme. Un seul chemin, et il y a une seule puissance qui puisse sauver. Et dis-moi, je n'ai point honte, parce que ça fait tellement un beau travail, et un travail tellement bien fait, et que j'en ai pas honte. Il dit, bon, s'il y en a qui ne veulent pas l'entendre, ce n'est pas mon problème. Parce que moi je sais ce que il n'est pas motivé par la réception qu'il va recevoir, il est motivé par ce désir qui le pousse, l'amour de Dieu me presse, comme il dit. Et nous allons nous attarder un petit peu sur le mot puissance, parce que nous ne voulons pas prendre le risque de lui donner un sens qui n'est pas celui qu'on voulait dans la Bible, que le Saint-Esprit voulait communiquer par l'écrivain, parce que nous savons que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc ça veut dire que l'Esprit de Dieu est contrôlé jusque dans le choix des mots. Si nous arrêtons et nous voulons voir ce que veut dire ce mot-là, je ne manipule pas le grec, mais je sais lire des dictionnaires. Le mot puissance-là, c'est le mot dynamis. Dynamis, c'est vrai, en français, on a le mot dynamite, dynamiser, et tout ça, c'est dynamis. Donc, c'est une puissance. Ce n'est pas le pouvoir dans le sens de capacité. C'est pas cette puissance dans le sens qui me rend capable de faire quelque chose. Mais c'est ni une force qui s'impose, c'est pas une puissance dans le sens, vous savez, on a les puissances du monde et puis qui imposent leur volonté, et c'est pas toujours bon, mais bon, on va pas faire de politique ce matin, mais c'est plutôt cette puissance. En français on a le mot dynamiser, c'est là où on injecte quelque chose, on a l'impression d'injecter quelque chose, de communiquer quelque chose qui va rendre la personne capable. Ou le projet dynamisé, c'est on va injecter quelque chose qui va le rendre capable. C'est-à-dire il y a une force qui est transmise. Et c'est un peu le sens de quand il dit l'évangile, c'est une puissance. C'est dans le sens que l'évangile, quand ça pénètre une vie, il y a quelque chose d'agissant là. C'est ça qu'il veut utiliser. Il va dire dans Romains chapitre 1, verset 4, dans ce même chapitre, il y aura le même mot quand il dira de Jésus qui est déclaré fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ le Seigneur. Et cette puissance en Jésus-Christ, qu'il a ressuscité, le déclarant par ce moyen, fils de Dieu. Vous savez, il avait en lui cette puissance et qu'il a ressuscité. Vous dites, alors, ressusciter quelqu'un des morts, c'est déjà difficile, mais croire qu'un mort se ressuscite lui-même, alors ça, c'est vraiment, tu demandes beaucoup, Steve. Si vous lisez l'Écriture, vous lisez dans Romains chapitre 10, verset 9, il dit, Dieu l'a ressuscité des morts. Vous lisez ce qu'on vient de lire ici, chapitre 1, verset 4, c'est Jésus qui est ressuscité. Et lorsque vous lisez dans Romains chapitre 8, verset 11, c'est le Saint-Esprit qui l'a ressuscité. C'est cette puissance est divine, elle est dans la Trinité. C'est une puissance qu'on ne peut pas arrêter, elle est là. Et vous pouvez tuer Jésus, homme, mais Jésus, Dieu, eh ben, il est toujours là. Et cette puissance est là, et il a pu être ressuscité, se ressusciter. Et par ce moyen, eh ben, on dit, ben, alors là, il y a quelque chose. Eh ben, c'est pas seulement il y a quelque chose, mais il y a le Fils de Dieu. Et il dit, voilà, ça, c'est de cela que je parle. De cette puissance qui est là, et qui même... c'est vrai que la dynamite, ça n'a pas l'air... Hein, c'est un bâton, hein. Il suffit... Bon, après, si on met... On l'allume, hein, mais on allume la mèche, après, c'est autre chose, ça déclenche des choses. Mais aussi, il dit, s'il y a une puissance là, qui est disponible. Et vous savez, quand Jésus a parlé aux disciples, il a dit, écoutez, allez à Jérusalem, vous attendez là, je vous enverrai une puissance. C'est le même mot. Je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Il dit, vous, là, vous avez rien, vous n'arrivez pas à être des témoins, vous avez peur, vous êtes derrière des portes et en train de vous mordre les ongles, je veux dire, de peur. Mais je vous enverrai une puissance, le Saint-Esprit, et quand je vous l'aurai communiqué, hein, il parle du jour de Pentecôte, eh bien ça changera tout. Tout d'un coup, ces hommes, et c'était ça le grand étonnement des gens de Jérusalem, ils disent, mais ces gens, on les connaît, mais on ne les reconnaît plus. On les a déjà vus. Hein. Puis peut-être, il y a certainement quelqu'un qui vient de la cour de Caïphe qui a dit, mais celui-là, je l'ai vu près du feu, là. Il disait qu'il ne le connaissait pas. Et puis là, regarde-le, je ne le reconnais plus. Mais, il dit, c'est cette puissance. Il dit, c'est l'évangile, c'est cette puissance qui pénètre dans la vie d'une personne et elle n'est plus la même. La personnalité demeure, je dis ça en passant, la personnalité n'est pas touchée, c'est la nature qui est transformée. Et il dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Jérusalem, Judée, Samarie et aux extrémités de la terre, vous irez partout. Et c'est ce mot dynamis. Pourquoi ? Parce que c'est une puissance qui est là et qui accomplit l'œuvre de Dieu. Hein, c'est pas comme un vent qui souffle, c'est pas quelqu'un qui pousse, c'est pas... Et puis après, bon, bah après, je vais où ? Non, c'est une puissance qui est dans notre vie et qui commence à agir et qui commence à transformer et petit à petit. Et ça devient visible de n'importe qui. Même les incroyants vont voir le changement. Il disait des disciples, ils prirent note qu'ils avaient été avec Jésus. Ils parlent comme lui. Ils se comportent comme lui, ils réagissent comme lui. Ah, ça se voit qu'ils l'ont fréquenté. Et même le mot contient plus que l'idée de l'omnipotence de Dieu. Hein, c'est la puissance dans le sens de puissance de pouvoir accomplir, réaliser ce qu'il veut accomplir. C'est parce qu'il dira... Dans 1 Corinthiens 2, 5, il dit, Paul écrit aux Corinthiens, « Afin que votre foi fût fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Donc, si la foi est fondée sur quelque chose, ce n'est pas juste quelque chose d'une force, ou c'est quelque chose qui a les attributs de Dieu. C'est quelque chose qui vient directement du cœur de Dieu. Et il dit, la foi ne peut pas être, ce n'est pas la croyance en la toute-puissance de Dieu. Parce qu'il y avait des milliers qui venaient à Jésus, qui croyaient en la toute-puissance de Jésus, de pouvoir guérir tous leurs maux. Ils venaient avec une variété extraordinaire, avec leurs enfants possédés, ils arrivaient avec leurs aveugles, avec leurs lépreux, avec tout ça. Ils croyaient que Jésus pouvait guérir. Mais est-ce que ça les a sauvés? Non. Là, la plupart n'étaient pas sauvés. C'est pas ça. C'est croire en la toute-puissance de Dieu, ça suffit pas. Hein, nous sommes entourés par nos chers amis musulmans, mais ils croient que Dieu est tout-puissant, hein, mais ça ne change rien. C'est pas la croyance. Hein. Et donc, quand il dit que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, il est en train de parler d'autre chose qui va bien plus loin, qui a tous les attributs de Dieu, qui est l'expression même de Dieu. Cette parole qui agit et qui transforme. C'est en cette puissance régénératrice du message de l'Évangile que nous devons croire, placer notre confiance. Et c'est par elle qu'on reçoit la vie éternelle. Hein, ce message de l'Évangile, et je vous rappelle, hein, l'Évangile, c'est le fait que Jésus-Christ est mort sur la croix pour nos péchés, qu'il était enseveli et qu'il est ressuscité, et actuellement il est à la gloire de Dieu. C'est ça. Ce message-là, en lui-même, est une puissance pour transformer les hommes. Hein, et la personne qui ne comprend pas plus à la Bible, mais qui entend cela, qui le croit, déjà, il commence à être transformé. Bon, après, bien sûr, il faut s'éduquer dans l'enseignement de la Bible. Mais à partir du moment qu'il saisit ces vérités-là, eh bien, l'œuvre de Dieu se met en marche. Hein, c'est l'essentiel. Et donc, on n'a pas besoin de tout comprendre dans la Bible. Il y en a des gens qui disent, bon, il y a plein de choses que je ne comprends pas. T'en fais pas. Si tu comprends que Jésus-Christ est mort sur la croix pour toi, qu'il est... a été enseveli tout un jour, qu'il est ressuscité et qu'il est à la gloire de Dieu, si tu saisis cela, eh bien tu as tout, tu as accès à tout. Et le reste viendra. Hein? Si, Jésus dira encore, Paul dira encore aux Corinthiens, ils disent, car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. C'est pour ça que j'espère qu'il ne viendra pas le jour où la croix de Christ ne passera pas mentionnée parmi nous. Hein, de toutes les choses, tous les sens que Dieu aurait pu donner à une table, eh bien, il a choisi sa mort. Hein. Le pain et le vin, il a dit ça, il ne faut pas l'oublier. Je ne vous ai donné aucun rappel pour les autres choses, mais ça, il ne faut jamais l'oublier. Parce que tout est là. C'est vrai que la prédication de la croix, c'est une folie pour celui qui est strictement intellectuel. Mais pour celui qui se tourne vers Dieu, eh bien, c'est une puissance. La bonne nouvelle est le message de la crucifixion de Christ, son ensevelissement et sa résurrection le troisième jour. Justement, dans ce Romains chapitre 10, verset 9, il dit « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Et quand le mot « tu seras sauvé », c'est bien court. Et ça, oui, mais si vous saviez tout ce qui est englobé dans ce « tu seras sauvé », alors là, ça dépasse notre imagination. Hein. Et tout ce que le Seigneur réserve est dans ce mot, et tu seras sauvé. Tu auras accès à tout ce que j'ai préparé pour toi. Vous savez, pour un peu comprendre, vous savez, il n'y a aucun exemple terrestre qui peut bien exprimer les choses, mais des fois, hein, même le Seigneur a employé des exemples terrestres pour exprimer des vérités bibliques. Alors, je me permets, vous avez entendu parler des malwares. Hein, si vous avez un ordinateur, au bout d'un certain temps, vous avez compris qu'il y a des choses qui se passaient que vous n'avez pas prévues. Malwares, ce sont ces petits logiciels qui s'installent sans votre autorisation. Ils s'installent dans votre ordinateur et puis ils commencent à faire des choses. Ils travaillent tout seuls. Et puis après, tout d'un coup, votre ordinateur commence à se ralentir, il rame, et vous dites, qu'est-ce qui arrive ? pourtant j'ai payé quelque chose de bien. Et ces logiciels, ils ont un pouvoir en eux de faire du travail. Hein, ils l'ont. Et bien, vous savez, dans le bon sens, ça c'est dans le mauvais sens, hein, mais dans le bon sens, eh bien l'évangile, c'est ce, permettez-moi de dire, c'est ce petit logiciel que Dieu peut mettre dans le cœur d'un être humain et qui commence à œuvrer et qui commence à fouiller partout, qui va dans tous les domaines de la vie et qui commence à agir, puis à nettoyer. Et au lieu de ralentir, eh bien, il épanouit. Hein. Donc, l'évangile, c'est le bonware, hein, pas le malware. Et c'est pour le salut de quiconque croit. C'est Dieu qui... C'est l'évangile, c'est cette parole et que ça pénètre le cœur et puis ça commence à travailler. Le Saint-Esprit s'en sert, hein, parce qu'il se sert du... Hein, Jésus a dit, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous rappellera mes paroles. Hein, le Saint-Esprit se sert de cette parole, ce message, et puis qui commence à travailler nos vies. Et puis vous pouvez laisser faire, il n'y a pas de risque. Hein. Pour le malware, alors là, écoutez, hein, y a des logiciels, il y a des trucs, on paye cher, c'est inventé, puis on en dit des choses là-dessus, mais qui en profitent. Mais pour l'évangile, écoutez, c'est gratuit, et ça œuvre, et c'est à... qu'on soit jeune, ou moins jeune, parce qu'il n'y a pas de vieux, hein. Sinon je me sentirais visé. Alors, que ce soit les enfants, que ce soit celui qui est éduqué, qui n'a pas été éduqué, ça n'a rien à faire. Parce que ça vient de la part de celui qui a créé l'homme. Et c'est un logiciel qui correspond à l'homme. C'est que certains introduisent cette notion supplémentaire qui paraît en elle-même assez inoffensive, et qui me semble être étrangère au texte. Je lisais là récemment, et il disait « La puissance souveraine de Dieu par le moyen de l'Évangile apporte le salut à quiconque croit. » Ça fait beau au début. Mais après, je me dis mais c'est pas ça que ça dit. Il dit « La puissance souveraine de Dieu par le moyen de l'Évangile apporte le salut à quiconque croit. » La puissance souveraine de Dieu n'est pas mentionnée ici. Vous savez, la puissance souveraine, et je ne vais pas le développer là, bon, peut-être on aura l'occasion d'en parler, mais c'est la puissance souveraine, pour comprendre le mot, c'est dans le sens que Dieu, il détermine tout, il sait tout, il fait tout, il contrôle tout, et rien ne se passe sans lui. Hein. On aura l'occasion de dire, parce que quand même, ma définition, elle est, je ne suis pas d'accord avec. Hein, donc, bon... Mais c'est ce qu'on dit sur la puissance souveraine de Dieu. Ce qu'il nous dit, c'est l'évangile qui a la puissance. C'est pas qu'il y a une puissance qui utilise l'évangile pour. L'évangile en elle-même est une puissance. Alors, c'est pour ça qu'on en parle tant. Hein. Les anges, quand ils ont annoncé la naissance de Jésus, ils ont dit « Je vous annonce une bonne nouvelle, l'évangile, qui sera pour tout le peuple. » C'est l'évangile qui sera pour tout le peuple, un sujet de grande joie. La puissance de Dieu, on en a vu. Les enfants d'Israël, ils l'ont vu sur la montagne de Sinaï, puis ça les a fait trembler. Ils ont dit « Non, Moïse, écoute, tu vas, toi, il te parle, et toi, tu nous parles, parce que nous, on ne supporte pas. » Mais... l'évangile, là, c'est fait pour nous. L'évangile est la puissance provenant de Dieu qui, à elle seule, peut accorder le salut à celui qui croit, qu'il soit juif ou païen. Cet évangile agit, peu importe mes origines, j'étais croyant ou je n'étais pas croyant, j'étais d'une religion ou j'étais d'une autre, peu importe. Cet évangile peut agir et travailler et faire une œuvre. C'est pour ça qu'il nous dit, dans Romains chapitre 10, verset 14, il dit « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui le prêche ?» la puissance de Dieu, elle est là. Hein, vous verrez plus loin, peut-être dimanche prochain, on verra un peu plus loin dans le même chapitre, il parle de la puissance de Dieu qui se voit à l'œil nu. Et donc, cette puissance, elle est là. Mais la puissance qui agit, c'est l'Évangile. C'est l'Évangile qui pénètre et qui et dit, mais il faut l'entendre. Si on n'a pas entendu parler, on ne peut pas... Si on n'a pas entendu parler, on ne peut pas le croire. Hein? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient des paroles de Christ. Et donc, c'est la grâce de Dieu est présente ici par le fait que Dieu permet qu'il y ait l'Évangile et qu'il puisse... la grâce de Dieu est présente ici par le fait que Dieu accorde un moyen de salut par cette puissance qui est l'Évangile de Dieu. C'est par grâce que nous sommes sauvés et par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé, sinon par la foi. Il nous dit, c'est pas la grâce qui nous donne accès à la foi, c'est la foi qui nous donne accès à la grâce. Hein? Et donc, vous savez, la grâce, à moins d'être coupable de quelque chose, la grâce n'a aucun sens. Mais lorsque je suis coupable, je suis dans ce besoin duquel je ne peux pas m'extraire, c'est là où la grâce de Dieu peut agir et j'ai besoin de cette grâce. La foi, nous ouvre la porte à la grâce de Dieu, à la puissance de Dieu et nous permet d'accéder. Donc, et rapidement, hein, quand il dit, je n'ai point honte de l'Évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Je n'ai point honte de l'Évangile, il parle de ce salut. Et le salut, rapidement, je me rappelle une fois, j'ai rencontré quelqu'un, il dit le salut. Ah, c'est quand on salue quelqu'un, c'est le salut. Il dit non, c'est pas ça. C'est le fait de le salut, c'est nous permet d'échapper à un jugement qui repose sur chaque personne depuis la chute d'Adam dans le jardin. Hein, vous savez, il est impossible d'être un rescapé à moins qu'il y ait eu un danger. Hein, il faut qu'il y ait eu un danger pour qu'il y ait un rescapé. Et si on parle du fait d'être sauvé, c'est parce qu'il y avait eu un danger et duquel il fallait être délivré et qu'on ne pouvait pas. Il n'a pas dit se sauver, il a dit être sauvé. C'est-à-dire c'est une autre force extérieure qui intervient et qui nous sort de là. C'est ça le salut dont on parle dans la Bible. Et il nous dit, c'est parce qu'il y a un danger qui nous guette. Il y a un jugement qui nous guette, qui repose sur nous. Même Jean chapitre 3, Jésus en sa discussion, après sa discussion avec Nicodème, eh bien Jean nous donne cette parole de Jésus. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Donc le jugement est déjà là. Et donc on a besoin d'être sauvé, délivré de ce jugement. Il est là sur chacun d'entre nous, qu'on en soit conscient ou pas, qu'on le veuille ou pas, que ce soit qu'on le comprenne ou pas, il est là. La question c'est, alors tu peux, on te dit, on dit, il y a un tsunami qui arrive, sauvez-vous vers les montagnes. Il dit, comment, c'est quoi un tsunami, c'est quoi? Ben écoute, ça sera trop tard. Sauve-toi, une fois que tu seras sur la montagne, tu te demandes c'était quoi. Hein, le danger est là. Et l'Évangile est là, il dit « Christ est mort hein, », parce que s'il n'y avait pas un danger, Christ ne serait pas mort. Il n'a pas fait ça pour le plaisir ou pour la gloire, hein, parce qu'on ne lui a pas donné beaucoup de gloire pour ça, sur la terre en tous les cas. Mais il dit « Si Christ est mort, c'est parce qu'il y croyait réellement qu'il y avait un danger. Hein, celui qui se sacrifie parce qu'il sait qu'il y a un danger. Hein, » Et c'est... je me rappelle l'histoire d'un enfant qui avait honte de sa mère parce qu'elle avait les mains étaient déformées, la peau était terrible et il avait honte de sa mère. Il dit, écoute, ne m'emmène pas à l'école, je vais tout seul. Parce qu'il ne voulait pas que les gens le voient. Un jour, sa mère lui dit, écoute, tu sais pourquoi mes mains sont comme ça? Il dit, non. Il dit, il y avait un feu et ton berceau était embrasé. Et je t'ai pris et je t'ai sauvé la vie. C'est pour ça que mes mains sont comme ça. Alors ça changeait tout. Ça changeait tout. Après, là, il a compris que il devait être fier des mains de sa maman. Pas avoir honte. Et vous savez, Jésus, il nous montre ses mains percées. Il dit, oh, ça fait pas bien d'avoir un Dieu qui a les mains percées. Ça fait pas honorable. Ça fait pas... Il dit, mais tu sais pourquoi ils sont percés? C'est pour te sauver la vie qu'ils ont été percés. Alors là, ça change tout. Ça change tout quand je comprends cela. Et c'est lorsque je saisis cette vérité, et je dis, Seigneur, cet enfant, il dit, oh maman, merci. Pardonne-moi. J'ai dit tellement de choses pas gentilles sur toi. Pardonne-moi. Eh bien, c'est un peu ce qu'on fait quand on vient à Jésus-Christ. On dit, Seigneur, j'avais pas compris, excuse-moi. Mais maintenant, pardonne-moi. Je te dis merci. Et je pourrai jamais te rendre ce que tu as fait, mais je te dis merci. Et je n'aurai point honte de l'Évangile. C'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Commençant par moi, pour vous et pour n'importe quel autre. J'ai commencé le ministère il y a plus de 40 ans et j'y croyais à ce message que l'évangile pouvait sauver n'importe qui. Mais vous savez, depuis, comme l'apôtre Paul, j'ai dit, j'en ai vu des cas et tu as fait la même œuvre. Maintenant, je suis encore plus croyant que je ne l'étais il y a 40 ans parce que il y a une puissance. C'est pas juste une belle histoire de sacrifice, mais c'est vraiment un message de salut et des âmes sont transformées et j'ai pu voir le message de l'évangile pénétrer des papas et des mamans et les réconcilier et faire une maison agréable, et les petits-enfants, ils ont grandi, ils n'ont jamais su ce qu'ils auraient pu avoir comme vie si ce n'était pas pour l'évangile. Mais moi, je sais dans quel état était la maison quand eux sont nés. Mais vous savez, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et heureusement, c'est par la foi. Ça ne coûte rien. Pour certains, ça leur coûte un peu leur honneur. Mais bon, vous savez, votre honneur, vous ne pourrez pas la vendre cher sur le marché, hein. Mais s'ils ne sont pas prêts, ça va leur coûter leur éternité aussi. Tandis que recevoir Jésus-Christ et après dire, je n'ai point honte de l'Évangile. Peu importe ce que les gens pensent, mais moi je sais ce que cet Évangile peut faire. Je sais ce que ça a fait pour moi. Et laissez-moi vous raconter ce que ça a fait pour moi. Et que le Seigneur nous aide. Vous savez, on a peut-être besoin de 2-3 minutes de silence pour dire au Seigneur merci. Ou peut-être qu'on a besoin de lui dire, Seigneur, je veux cette puissance de l'Évangile. Moi, je sais que je ne suis pas digne, mais tu n'as pas promis ça à des gens dignes. Tu as promis ça à des pécheurs. Tu es venu pour sauver les pécheurs. Pour ceux qui étaient perdus, tu es venu chercher ceux qui étaient perdus. Seigneur, dites-lui ce que vous avez dans le cœur, ce qui est venu comme pensée en entendant ce message, et il sera content de l'entendre. Et puis ensuite, je terminerai par la prière.